Chapitre 59. Le manuscrit. Ma confession pour être mise dans mon cercueil et enterrée avec moi. 1. Ceci est l'histoire de ma vie de femme mariée. Ici est consignée la vérité inconnue à tous et confessée à mon Créateur. Au grand jour de la résurrection, nous reprendrons nos corps. Quand je serai appelée devant le divin tribunal, je me présenterai ceci à la main. Juge équitable et miséricordieux, tu sais ce que j'ai souffert, ma confiance est en toi. 2. Je suis l'aînée d'une nombreuse famille issue de parents pieux. Nous appartenions à la congrégation des premiers méthodistes. Toutes mes sœurs se marièrent avant moi. Pendant quelques années, je restais seule à la maison. Bientôt, la santé de ma mère faiblit et c'est moi qui conduisis la maison à sa place. Notre pasteur spirituel, le bon Mr. Babscheid, dînait souvent avec nous le dimanche après le service divin. Il approuvait ma manière d'administrer la maison et il louait spécialement mes talents en cuisine, ce qui n'était pas agréable à ma mère, jalouse de me voir occuper sa place. Ainsi commença mon malheur dans la maison paternelle. Le caractère de ma mère devint plus difficile à mesure que sa santé devenait plus mauvaise. Mon père était souvent en voyage pour ses affaires. J'avais tous les ennuis à supporter. Vers cette époque, je commençais à penser que je ferais mieux de me marier, comme avaient fait mes sœurs, et de recevoir à dîner le bon M. Babscheil après les services du dimanche dans une maison à moi. Dans ces dispositions d'esprit, je fis la connaissance d'un jeune homme qui suivait le service divin à notre chapelle. Son nom était Joël Destrage. Il avait une belle voix. Quand il chantait les hymnes, il les suivait sur le même livre que moi. De son état, il était couleur de papier. Nous eûmes de nombreuses conversations sérieuses ensemble. Je me promenais avec lui tous les dimanches. Il était de 10 bonnes années plus jeune que moi et, simple journalier, sa condition dans le monde était au-dessous de la mienne. Ma mère découvrit notre affection. Elle le dit à mon père à son retour à la maison. Elle le dit également à mes sœurs et à mes frères. Tous se réunirent pour déclarer que les choses ne devaient pas aller plus loin entre moi et Joël Destrage. J'eus un temps bien dur à passer. Mr. Babscheid lui-même exprima la grande affection qu'il avait du tour qu'avaient pris les choses. Il fit allusion à moi dans un sermon sans me nommer, mais je compris très bien ce qu'il voulait dire. Peut-être aurais-je cédé s'il n'avait pas fait une certaine chose, une enquête parmi les ennemis de Joël. Ils colportèrent de mauvaises histoires sur lui. Ce procédé, après que nous avions chanté sur le même livre, fait des promenades ensemble et que nous nous étions trouvés d'accord sur la question religieuse, était plus que nous n'en pouvions supporter. J'étais d'âge à me conduire moi-même. J'épousai Joël Destrage. 3. Tous mes parents me tournèrent le dos. Aucun d'eux n'assista à mon mariage. Mon frère Reuben, en particulier, qui menait tous les autres, déclara que toute relation était rompue avec moi à partir de ce jour. Mr. Babscheid en fut fort ému. Il versa des larmes et dit qu'il prierait pour moi. Je fus mariée à Londres par un pasteur qui m'était étranger et nous nous établîmes dans cette ville avec un bel avenir devant nous. J'avais une petite fortune personnelle, ma part de l'argent laissée pour moi et pour mes sœurs par notre tante Esther, dont je porte le nom. Cette part consistait en une somme de 300 livres. Près de 100 livres furent employés à l'acquisition du mobilier et de la petite maison dans laquelle nous allions vivre. Le reste, je le remis à mon mari pour le déposer à la banque jusqu'au moment où il en aurait besoin pour s'établir à son compte. Pendant 3 mois, plus ou moins, tout alla assez bien, sauf sur un point. Mon mari ne faisait aucune démarche pour s'établir et entrer dans les affaires. Une ou deux fois, il se fâcha parce que je lui disais que nous avions tort de dépenser l'argent déposé à la banque et dont nous pourrions avoir besoin plus tard au lieu de chercher à en gagner d'autres. Le bon Mr. Babscheid, se trouvant en ce moment à Londres, resta un dimanche et vint dîner avec nous dans l'intervalle des services. Il avait essayé de faire la paix avec mes parents, mais il n'avait pas réussi. Sur ma demande, il parla à mon mari de la nécessité de faire quelque chose. Mon mari prit mal ses avis. Pour la première fois, je le vis s'emporter sérieusement. Le bon Mr. Babshide ne dit plus rien. Il paraissait alarmé de ce qui était arrivé et nous quitta de bonne heure. Peu de temps après, mon mari sortit. Je tins le thé prêt pour lui, il ne revint pas. Je préparai son souper, il ne revint pas davantage. Il était plus de minuit quand je le revis. Je fus surprise de l'état dans lequel il se trouvait en rentrant à la maison. Il n'avait ni la même voix, ni le même visage. Il semblait ne pas me connaître. Il divaguait et il tomba comme une masse inerte sur le lit. Je courus chercher un médecin. Le docteur le souleva pour l'exposer à la lumière, le regarda, flaira son haleine et le reposa dans le lit. « Qu'a-t-il, monsieur ? » dis-je. « Ne le savez-vous pas ?»« Non, monsieur. »« Quelle sorte de femme êtes-vous pour ne pas reconnaître un homme ivre ?» Sur ces mots, il partit et me laissa près du lit toute tremblante de la tête aux pieds. Voilà comment je découvris pour la première fois que j'étais la femme d'un ivrogne. 4. J'ai omis de dire quelque chose sur la famille de mon mari. Dans le temps, nous nous promenions ensemble, il m'apprit qu'il était orphelin, qu'il avait un oncle et une tante au Canada et un frère établi en Écosse. Avant que nous fussions mariés, il me communiqua une lettre de son frère. Celle-ci exprimait son chagrin de ne pouvoir venir en Angleterre pour assister à notre mariage et nous souhaitait joie, bonheur et santé. Le bon Mr. Babshide, auquel j'écrivis en secret ce qui était arrivé, me répondit pour me conseiller d'attendre un peu et de voir ce que ferait mon mari par la suite. Je n'eus pas à attendre longtemps. Il était pris de boisson le lendemain et le jour suivant. En apprenant cela, Mr. Babshide me demanda de lui envoyer la lettre du frère de mon mari. Il me rappela quelques-unes des histoires racontées sur mon mari et auxquelles j'avais refusé de croire avant mon mariage et ajouta qu'il serait peut-être bon de prendre des informations. En voici le résultat. Le frère de mon mari était à cette époque placé secrètement et sur sa demande entre les mains d'un médecin qui s'était chargé de le faire rompre avec ses habitudes d'ivrognerie. « La passion des liqueurs fortes, écrivait le docteur, est dans la famille. Ils restent sobres pendant des mois, ne prennent rien de plus fort que du thé. Puis l'accès s'empare d'eux et ils boivent comme des fous et deviennent de malheureux abandonnés. » Voilà le mari que je m'étais donné. J'avais offensé mes parents, je me les étais aliénés pour lui. Triste perspective pour une femme. Avant une année, l'argent déposé à la banque était dissipé et mon mari était sans emploi. Il trouvait facilement de l'ouvrage, étant ouvrier de premier ordre quand il était sobre, mais il se faisait congédier dès que sa passion pour la boisson le reprenait. J'étais désespérée de quitter notre petite maison si bien tenue et de vendre mon joli mobilier, et je lui proposai de chercher de l'emploi pendant le jour comme cuisinière et de laisser aller les choses pendant qu'il cherchait à retrouver de l'ouvrage. Il était sobre et repentant à ce moment-là, il accepta ma proposition. Bien plus, il prit l'engagement de devenir un nouvel homme. Tout alla donc assez bien pendant quelque temps. Nous n'avions à penser qu'à nous. Je n'avais pas d'enfant et peu de chance d'en avoir jamais. Différente de beaucoup de femmes, je regardais cela comme une chose heureuse. Dans ma situation, dès que je la connus, devenir mère n'eût été qu'une aggravation de ma cruelle destinée. Le genre d'emploi que je cherchais ne pouvait se trouver en un jour. Le bon Mr. Babshide me donna un certificat et notre propriétaire, un digne homme appartenant, j'ai le regret de le dire, à l'église romaine, parla pour moi l'intendant d'un club. Néanmoins, il fallut du temps pour persuader les gens que j'étais une aussi parfaite cuisinière que je le prétendais. Près d'une quinzaine avait passé avant que j'eusse rien obtenu. Enfin, j'étais placée. Je revenais à la maison, joyeuse, autant que la joie a jamais été dans ma nature, pour annoncer ce qui était arrivé. je trouvai des commissionnaires en train d'emporter le mobilier que j'avais payé de mon argent pour le vendre aux enchères publiques. Je leur demandai comment ils osaient y toucher sans ma permission. Ils me répondirent assez poliment, je l'avoue, qu'ils agissaient d'après les ordres de mon mari et continuèrent sous mes yeux à charger leur charrette. Je montai au premier étage et je trouvai mon mari sur le palier. Il était encore pris de boisson. Inutile de dire ce qui se passa entre nous. Je mentionnerai seulement que ce fut la première fois qu'il leva la main sur moi et me frappa. 5. Doué d'une nature énergique, j'étais résolu à ne pas souffrir pareille chose. Je courus aussitôt au bureau de police. Mon argent avait non seulement payé le mobilier, mais il avait subvenu aux charges de la maison et servi à payer les impôts demandés par la reine et par le Parlement. Je me rendis donc auprès du magistrat pour voir ce que la reine et le Parlement, en retour de l'acquittement de ces impôts, pourraient faire pour moi. « Le mobilier était-il en votre nom ?» dit-il quand je lui eus exposé ce qui était arrivé. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Il se tourna vers une personne qui était assise auprès de lui. « C'est un cas cruel, » fit-il. « Les pauvres gens de cette condition ne savent même pas ce que c'est que les stipulations d'un contrat de mariage et, le saurait-il, combien peu seraient en état de payer les honoraires de l'homme de loi ?» Sur ces mots, il se retourna vers moi. « Votre cas est un cas ordinaire, » dit-il. « Dans l'état présent de la législation, je ne puis rien faire pour vous. » Il m'était impossible de croire pareille chose, ordinaire ou non, je lui soumis de nouveau mon affaire. « J'ai acheté le mobilier de mes deniers, monsieur, dis-je. Il est à moi, je l'ai acquis honnêtement. Je puis le prouver par des factures acquittées. On me l'enlève de force pour le vendre contre ma volonté. Ne me dites pas que c'est la loi. Nous sommes en pays chrétien, cela ne peut pas être. » « Ma bonne créature, dit-il, vous êtes en puissance de mari. La loi ne permet pas à une femme mariée de dire que rien lui appartient si elle n'a pas, avec l'aide d'un homme de loi, passé un contrat à cet effet avec son mari avant de l'épouser. Vous n'avez pas fait de contrat, votre mari a le droit de vendre le mobilier si cela lui convient. J'en suis affligée pour vous, mais je ne puis le lui défendre. » J'étais opiniâtre dans mes idées. « Veuillez me répondre à ceci, monsieur, m'écriai-je. Il m'a été dit par des gens plus savants que moi que nous devions acquitter des impôts pour soutenir la reine et le Parlement et qu'en retour, la reine et le Parlement faisaient des lois pour nous protéger. J'ai payé mes impôts. Pourquoi n'existe-t-il pas de loi qui me protège ?»« Je ne puis pas entrer dans cet ordre d'idées, répondit-il. Je dois appliquer la loi telle que je la trouve et vous devez la subir. Je vois une marque sur ce côté de votre visage. Votre mari vous aurait-il battu ? S'il vous a frappé, appelez-le ici. Je puis le punir pour ce fait. » « Comment vous pouvez le punir ? Dis-je. « Je puis le condamner à une amende ou l'envoyer en prison. » « L'amende, il peut la payer avec le produit de la vente de mes meubles. Quant à la prison, pendant qu'il sera renfermé, que deviendrai-je avec mon argent dissipé par lui et dépouillé de tout ce que je possédais ? Lorsqu'il sortira de prison, que deviendrai-je encore avec un mari que j'aurai fait punir et qui saura que c'est moi qui ai obtenu cette punition ? Le mal est assez grand tel qu'il est. Il n'y a pas que mon visage qui soit meurtri. Je vous souhaite le bonjour. » 6. Quand je rentrai, le mobilier était enlevé et mon mari parti. Il n'y avait personne que le propriétaire dans la maison vide. Il me dit tout ce qu'il pouvait me dire. Il fut assez bon pour moi. Dès qu'il fut parti, je fis ma malle, je montai dans une voiture lorsque la nuit fut venue et je trouvai un logement pour y reposer ma tête. S'il y eut jamais une créature isolée et malheureuse dans le monde, j'étais cette créature ce soir-là. Il n'y avait pour moi qu'une chance de gagner mon pain, aller occuper l'emploi qui m'avait été offert au club sous les ordres d'un chef cuisinier. Il ne me restait qu'un espoir, l'espoir de ne plus revoir mon mari. J'allai à mon ouvrage et je réussis. Je gagnai le premier trimestre de mes gages. Mais il n'est pas bon pour une femme de se voir dans la position où j'étais. seul et sans ami, dépouillé de tout ce que j'avais mis mon orgueil à acquérir et n'ayant plus d'intérêt dans la vie. Je suivais régulièrement les offices à la chapelle, mais je pense que mon cœur commençait à s'endurcir et que mon esprit s'absorbait trop dans ses pensées. Un changement était proche. Deux ou trois jours après que j'eusse reçu mes premiers gages, mon mari me découvrit. L'argent du mobilier était dépensé. Il fit un esclandre au club. Je ne pus le faire tenir tranquille qu'en lui donnant tout l'argent qui ne m'était pas absolument nécessaire pour vivre. L'affaire vint à la connaissance des commissaires. Ils me dirent que si pareille chose se renouvelait, ils seraient forcés de me congédier. Au bout d'une quinzaine, le fait se renouvela. Tous les commissaires me dirent qu'ils en étaient désolés pour moi, mais je perdis ma place. Mon mari revint avec moi dans mon logement. Le lendemain matin, je le surpris me volant ma bourse avec les quelques shillings qu'elle renfermait dans ma malle dont il avait fracturé la serrure. Nous nous querellâmes, il me battit encore et cette fois me laissa étendu à terre. Je retournai à la cour de police et je racontai mon histoire à un autre magistrat. Cette fois, ma seule demande était qu'on me protégeât contre le retour de mon mari. « Je ne veux pas être à la charge des autres, dis-je. Je ne demande que ce qui est juste. Je ne me plains même pas d'avoir été cruellement maltraitée. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse les moyens de gagner honnêtement ma vie. » La réponse que je reçus se résume en ceci. La loi pouvait me protéger, pourvu que j'eusse de l'argent à dépenser pour obtenir d'une plus haute cour une séparation. Après avoir permis à mon mari de me voler tout ce que je possédais, la loi me répondait, quand je venais à elle dans ma détresse, en me tendant la main pour être payée. Je ne possédais au monde que 3 shillings et 6 pence, et la perspective, si je gagnais davantage, de voir arriver mon mari avec la permission de la loi pour me le prendre. Il ne me restait qu'une chance, c'était de gagner du temps et de tâcher de lui échapper. Je gagnais 1 mois de liberté en l'accusant de m'avoir battu. Le magistrat, qui se trouvait être jeune et nouveau dans les affaires, l'envoya en prison au lieu de le condamner à l'amende. Cela me laissa le temps de me faire donner un certificat au club et d'obtenir une lettre de recommandation du bon Mr. Babchild. Grâce à ces pièces, j'obtins une place dans une famille, cette fois en province. Je me trouvais alors dans un poste tranquille. J'étais chez de braves et dignes gens qui avaient compassion de mon malheur et qui me traitaient avec une grande indulgence. Au milieu de tous mes tourments, je dois dire que j'ai toujours eu l'occasion de reconnaître une chose. J'ai observé que les gens heureux sont le plus souvent disposés à éprouver de la compassion pour le malheur des autres. J'ai observé également qu'ils voient assez clairement ce qu'il y a de dur, de cruel et d'injuste dans le gouvernement du pays auquel ils fournissent les moyens de marcher. Mais demandez-leur de ne pas rester tranquillement assis à murmurer contre les abus, demandez-leur de se lever et d'y mettre ordre, et vous trouverez un troupeau de moutons. Plus de 6 mois passèrent et j'économisais un peu d'argent. Un soir, comme nous allions gagner nos lits, la sonnette de la rue retentit bruyamment. Le valet de pied alla ouvrir. J'entendis la voix de mon mari dans le vestibule. Il avait retrouvé mes traces grâce à l'aide d'un homme de police qu'il connaissait et il venait réclamer ses droits. Je lui offris le peu d'argent que je possédais s'il consentait à me laisser où j'étais. Mon bon maître alla lui parler. Tout fut inutile, il ne voulut rien entendre. Si c'eût été lui qui m'eût quitté, on aurait pu faire quelque chose pour me protéger, à ce que je compris. Mais il tenait à sa femme. Tant que je pouvais gagner un denier, il tenait à moi. Lié à lui, je n'avais pas le droit de le quitter, j'étais obligée d'aller avec mon mari, aucun moyen de lui échapper. Je dis adieu à mes maîtres, j'ai toujours gardé le souvenir de leur bonté. Mon mari me ramena à Londres. Tant que l'argent dura, la boisson alla bon train. Quand il fut dépensé, je fus battu. Point de remède, point de remède. Je pouvais pourtant chercher à lui échapper de nouveau. J'aurais pu le faire remettre en prison. Quel avantage en résulterait-il pour moi? Au bout de quelques semaines, il sortirait sobre, repentant, promettant de s'amender. Puis l'accès le reprendrait et il redeviendrait fou furieux. Mon cœur s'endurcit sous l'influence de cette situation désespérée et de noires pensées m'assiégèrent, surtout la nuit. Vers ce temps, je commençai à me dire qu'il n'y avait d'espoir de délivrance que dans la mort. Sa mort ou la mienne. Une ou deux fois, j'allais me promener, à la nuit, sur les ponts, et je regardais la rivière. Non, je n'étais pas femme à choisir ce moyen pour mettre un terme à ma misère. La fièvre brûle votre sang, votre tête est en feu, vous sortez pour en finir avec la vie. Les tourments n'ont jamais produit cet effet sur moi. Sous leur influence, je deviens froide, mon sang ne s'allume pas, c'est mauvais, mais on est ce qu'on est. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ou le léopard faire disparaître les taches de sa robe? Je lui échappai encore et je trouvai une bonne place. Peu importe de dire où et comment, c'est toujours la morne histoire, mieux vaut arriver à la fin. Néanmoins, il y avait un changement cette fois, je n'étais pas dans une famille. J'avais aussi la permission d'apprendre à faire la cuisine à de jeunes femmes dans mes instants de loisirs. Grâce à cela, et mon mari ayant été longtemps à me découvrir, j'étais arrivée à me mettre en bonne position. Quand mon ouvrage était fini et la nuit venue, j'allais reposer dans le logement à moi. Il ne se composait que d'une chambre. Je le garnis de meubles m'appartenant. Le loyer était de moitié inférieur à celui que m'aurait coûté une chambre meublée. Et puis, au milieu de tous mes chagrins, j'ai toujours aimé que tout fût propre autour de moi, propre, bien en ordre et de bonne qualité. Eh bien, est-il nécessaire de dire comment cela finit? J'étais en course cette fois, le hasard me fit le rencontrer dans la rue. Il était en haillons et mourant de faim. Mais que lui importait à présent? Il n'avait qu'à puiser dans ma poche et y prendre ce dont il avait besoin. Il n'y a pas de borne à ce que peut faire un mari en Angleterre tant qu'il tient à sa femme. Dans cette occasion, il eut assez de finesse pour comprendre qu'il agirait contre son intérêt en me faisant perdre ma place. Pendant un certain temps, les choses allèrent assez paisiblement. Je prétendis que le travail était plus rude que de coutume et il me donna la permission de coucher au lieu où j'étais employé. Cela ne dura pas longtemps, l'accès le reprit. Il vint chez mes maîtres et fit un scandale. Des gens honnêtes ne pouvaient supporter cela, je perdis encore ma place. Une autre femme serait devenue folle. Je crois qu'il s'en fallait de l'épaisseur d'un cheveu que je perdisse la raison. Quand je le regardais le soir, plongé dans le sommeil de l'ivresse, je pensais à Jaël et à Sisara, voir le livre des juges, chapitre 4, verset 17-21. Il dit « Elle prit un clou de la tente et un marteau à la main, elle s'approcha doucement de lui, lui appliqua le clou sur la tempe et le cloua par terre, car il était profondément endormi et accablé de fatigue. Ainsi, il mourut. Elle accomplit cet acte pour délivrer son pays de Sisara. S'il y avait eu un marteau et un clou dans la chambre, je crois que j'aurais été Jaël, avec cette différence que j'eusse fait cela pour me délivrer moi-même. Avec le jour, cette idée passa. Je sortis et j'allai consulter un homme de loi. Beaucoup de personnes à ma place en auraient eu assez de la loi. Mais je suis de ceux qui vident la coupe jusqu'à la lie. Ce que je dis à cet homme se résume à ceci. Je viens prendre vos conseils au sujet d'un fou. Les fous, à ce que j'ai entendu dire, sont des gens qui ont perdu tout contrôle sur eux-mêmes. Quelquefois, cela les conduit à se nourrir d'illusions, d'autres fois à commettre des actions nuisibles à autrui et à eux-mêmes. Mon mari a perdu tout contrôle sur lui-même par sa passion pour les liqueurs fortes. Je requiert qu'on l'empêche de boire, comme on prend comme d'autres des mesures pour les empêcher d'attenter à leur vie ou à la vie du prochain. Il y a des asiles pour les fous par tout le pays, à la disposition du public, à de certaines conditions. Si je remplis ces conditions, la loi peut-elle me délivrer du malheur d'être mariée à un fou dont la folie est de boire ? Non, me dit l'homme de loi. La loi anglaise se refuse à considérer un incorrigible ivrogne comme étant dans des conditions à subir aucune peine. La loi anglaise laisse les maris et les femmes se débattre contre leur misère comme ils peuvent. Je payai des honoraires à l'homme de loi et je le quittai. C'était la dernière chance. elle était contre moi. 7. La pensée qui, une fois déjà, s'était présentée à mon esprit, revint de nouveau l'assiéger et ne me quitta plus. Il n'y avait de délivrance que dans la mort. Sa mort ou la mienne. Cette pensée me poursuivait nuit et jour dans la chapelle. Je relus l'histoire de Jaël et de Sisara si souvent que ma Bible s'ouvrait d'elle-même à cette place. Les lois de mon pays, qui auraient dû me protéger, comme toute honnête femme, me laissaient sans appui. En l'absence de protection, je n'avais pas d'amis à qui ouvrir mon cœur. J'étais renfermée en moi-même et j'étais mariée à cet homme. Considérez-moi comme une faible créature humaine et dites-moi, n'était-ce pas une épreuve trop rude pour les forces humaines ? J'écrivis au bon Mr. Babchild. Sans entrer dans aucune particularité, je me contentais de lui dire que j'étais en proie à la tentation et le priais de venir à mon aide. Il était retenu au lit par la maladie. Il ne put que m'écrire une lettre pleine de bons conseils. Pour profiter de bons conseils, il faut à une créature humaine la perspective d'une récompense à ses efforts. La religion elle-même est obligée de nous présenter cette récompense et de nous dire « Soyez bons et vous irez au ciel ». Je n'avais pas de perspective semblable. Je fus reconnaissante envers ce bon Mr. Babchild et rien de plus. Jadis, un mot de mon pasteur m'aurait remise dans la bonne voie, mais j'étais endurcie. Si les premiers mauvais traitements que j'aurais à endurer de Joël Destrange ne me trouvaient pas changés, je sentais que je me délivrerais de lui de mes propres mains. Sous l'empire de cette crainte, je m'humiliai devant mes parents pour la première fois. J'écrivis pour demander leur pardon, pour avouer qu'ils avaient eu raison dans leur opinion sur mon mari, et pour les prier de me rendre leur amitié et de me permettre de les aller voir de temps en temps. Ma pensée était que cela adoucirait mon cœur de revoir l'ancienne maison et de parler de l'ancien temps à ceux dont les visages étaient toujours présents à mon souvenir. Je suis presque honteuse de l'avouer, si j'avais eu quelque chose à donner, j'en aurais fait l'abandon volontiers pour me retrouver dans la cuisine de ma mère à faire le dîner du dimanche pour toute la famille. Mais cela ne devait pas être. Peu de temps avant la réception de ma lettre, ma mère mourut. Tous rejetèrent la faute de cette mort sur moi. Elle était souffrante depuis des années et avait été abandonnée par les médecins dès les premières atteintes de la maladie, mais ils ne me déclarèrent pas moins la cause de sa mort. L'une de mes sœurs m'écrivit, en aussi peu de mots qu'il lui fallut, pour m'exprimer l'opinion de toute la famille. Mon père ne répondit pas à ma lettre. 8. Magistrats et hommes de loi, parents et amis m'abandonnaient. Résignation aux injustices, patience, espoir, honnête labeur, j'avais tout essayé et tout essayé en vain. De quelque côté que je me tournasse, tout horizon se fermait devant moi. À cette époque, mon mari avait trouvé un peu d'ouvrage. Mais il rentra un soir à la maison dans de mauvaises dispositions et je lui donnai un avertissement. « Ne me mettez pas à une trop rude épreuve, Joël, dans votre propre intérêt. » Je ne lui dis que cela. Il était dans un jour de sobriété et, pour la première fois, un mot de moi parut faire de l'effet sur lui. Il me regarda fixement pendant une minute ou deux, puis il alla s'asseoir dans un coin et se tint en repos. C'était un mardi. Le samedi, il reçut sa paix et se remit à boire. Ce qui se passa en moi, je ne puis le décrire. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'après un court moment, je me décidai à quitter la maison. Je connaissais les endroits où je devais trouver mon mari. Le démon me poussait à aller à sa recherche. La propriétaire essaya de m'arrêter. C'était une femme plus grande et plus forte que moi, mais je me débarrassais d'elle comme d'un enfant. En y repensant, je crois qu'elle n'était pas dans des conditions à faire usage de sa force. Ma vue l'avait terrifiée. Je trouvai Joël. Je lui dis tout ce qu'une femme, mise hors d'elle par la fureur, pouvait dire. Est-il nécessaire de dire comment cela finit ? Il me frappa et me laissa à terre, privé de sentiments. Après cela, il y a une lacune dans ma mémoire. La première chose que je me rappelle, c'est que je revins à moi au bout de plusieurs jours seulement. Trois de mes dents étaient brisées, mais ce n'était pas ce qu'il y avait de pis. Ma tête avait frappé contre quelque chose en tombant, et un nerf, ont-ils dit, avait été lésé de façon à affecter en moi la faculté de la parole. Je ne puis pas dire que j'étais complètement muette, mais seulement tout à coup, parler devint un travail pour moi. Un mot un peu long me paraissait un obstacle aussi sérieux que si j'avais été un enfant. On me conduisit à l'hôpital. Les messieurs du corps médical vinrent entourer mon lit. J'étais pour eux un sujet d'intérêt, aussi puissant qu'un roman pour d'autres. Le point en question était de savoir si je finirais par devenir muette. On me prescrivit pour régime une bonne nourriture et l'on me recommanda de me tenir l'esprit en repos. Quant au régime, c'était un point difficile à décider. Avoir une bonne nourriture dépendait pour moi de la possibilité de gagner de l'argent pour me la procurer. Quant à mon esprit, pas de difficulté. Si mon mari revenait avec moi, mon esprit était fixé, mon idée arrêtée était de le tuer. C'est horrible, je sais que c'est horrible. Personne d'autre n'aurait fini aussi misérablement. Toutes les femmes, éprouvées comme je l'étais, auraient triomphé de cette épreuve.